silence, qui est cette source de toute notre reconnaissance, l'expression de nos reconnaissances et de nos louanges. Et aujourd'hui, alors je ne vais pas vous donner le titre de mon message tout de suite, je vais d'abord introduire, mais nous allons parler de l'Église en gros. Alors, vous savez qu'un implanteur d'Église avec son équipe, lorsqu'il commence un travail dans un nouveau lieu, doit se poser plusieurs questions. Qu'est-ce qu'une Église? Quelle est sa mission? Comment rendre une Église visible et accessible? Quelle relation doit-elle avoir avec son environnement? Quelles sont ses priorités? Un implanteur de France Mission, c'est Perspective plus exactement maintenant, qui avait une solide expérience, expliquait que l'implantation d'églises était un véritable travail de recherche sur la ville, sur ses habitants et les chrétiens qui étaient localement présents. Il disait entre autres, cette étape préalable s'avère non seulement indispensable, mais elle demande un effort continu et permanent qui permet à l'Église de s'intégrer et être en phase avec son environnement. Alors, pourquoi je vous parle de cela aujourd'hui? Quel rapport entre une implantation d'église et une église qui est implantée depuis, je crois, 55 ans, Paris Nation, et 40 ans pour Montreuil, dont bientôt 20 au 36 bis rue Étienne Marcel? Alors, ne sommes-nous pas comme des implanteurs qui redémarrent une nouvelle église en ce lieu? Pourquoi notre incendie? Un avertissement de notre Dieu? Une preuve tangible de sa protection dans les pires moments? Le rappel de la manifestation de sa gloire? Rappelez-vous notre dédicace à l'entrée de l'Église. À notre Dieu, à Dieu notre reconnaissance. Alors c'est à Dieu notre reconnaissance pour ce bâtiment qu'on avait mis cette dédicace, pour ce lieu. D'abord, c'est un parcours de persévérance pour établir l'intégrité des lieux, comme Abdoulaye nous y a encouragé dimanche dernier. La persévérance, toute œuvre destinée à la gloire de Dieu demande persévérance. Alors, complètement immergé dans le déroulement et la suite de cet incendie, si je peux dire, j'en ai tiré quelques conclusions que je vous livre ce matin. Nos voisins peuvent être sympathiques. Ils sont sympathiques, en tout cas ceux que je connais et que j'ai rencontrés, et même ceux qui sont venus parfois se plaindre, ils avaient souvent raison, étaient quand même sympathiques. On pouvait discuter. Nos voisins sont compatissants sur notre sort, j'ai pu le constater, prêts à nous aider, et ils nous ont aidés. Nos voisins nous regardent, nous observent et même nous protègent. Je pense en particulier à ce voisin qui a averti les pompiers. Ils sont aussi interrogatifs sur notre rôle. Et en fait, ils ne nous connaissent pas. Nous ne sommes pas visibles dans la vie du quartier, de la ville, dans la ville. Certes, nous avons fait beaucoup de choses en ce lieu, et il ne serait vraiment pas juste de dire qu'il ne s'est rien passé dans ce quartier. Mais l'environnement de l'Église a beaucoup changé en 20 ans, la population aussi, et les membres qui la composent aussi, qui restent d'ailleurs des premiers membres de cette Église, à part notre sœur Annick, notre brave sœur Annick. Et j'ai comme l'impression, ou plutôt la conviction, que nous sommes restés dans notre jus, sans voir tout ce qui se passait autour de nous. Ça me pose beaucoup de questions depuis cet incendie, et j'ai pensé à relire comment se présentait la première Église, celle de Jérusalem. Alors, on va lire Actes 2, les versets 42 à 47. Je vais vous les lire en français courant. C'est une description de cette église de Jérusalem. Il s'appliquait fidèlement à écouter l'enseignement que donnaient les apôtres, à vivre dans la communion fraternelle, à prendre part au repas commun et à participer aux prières. Chacun ressentait de la crainte, car les apôtres accomplissaient beaucoup de miracles et de signes. Tous les croyants étaient unis et mettaient en commun tout ce qu'ils possédaient. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et répartissaient l'argent ainsi obtenu entre tous, en tenant compte des besoins de chacun. Chaque jour, régulièrement, ils se réunissaient dans le temple. Ils prenaient leur repas ensemble dans leur maison. Ils mangeaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur. Ils louaient Dieu et se faisaient aimer de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à leur groupe ceux qui étaient sauvés. Alors, devons-nous croire que le Nouveau Testament, par ce texte, fournit une méthode ou un modèle d'Église précis et hors du temps, et qui soit applicable n'importe où dans le monde, et en particulier chez nous, à Montreuil? La description de cette première Église, ou plutôt de cette communauté de vie, je dirais, paraît presque trop idéale pour être vraie, trop parfaite pour subsister. Et d'ailleurs, beaucoup n'hésitent pas à dire, ça n'a pas duré, en tous les cas sur cette forme initiale. Son fonctionnement est davantage une description des fondamentaux de ce que doit être une Église, ce qui nous laisse assez libre quant à la forme que peut revêtir une Église locale. Mais nous y reviendrons. Alors, plutôt que de chercher à imiter à la lettre près, regardons ensemble comment fonctionnait la première Église, juste après la Pentecôte. Cette Église qui nous paraît si vivante, si attrayante, si idéale. Observons ce qu'on pourrait appeler peut-être l'ADN de l'Église. Certes, nous allons survoler les grandes lignes, parce qu'il faudrait sûrement beaucoup de temps pour analyser en détail tout cela, et il existe de nombreux livres, et d'ailleurs je ne suis pas capable d'aller dans les détails. Ce n'est qu'une réflexion que je vous propose pour notre application à Nation Montreuil ou Montreuil Nation. Alors le titre du message, c'est « Ne fréquentons pas une église, mais soyons nous-mêmes l'église de Christ ». Alors, nous aurons deux parties et une conclusion. Un Dieu visible et compréhensible de tous, ce sera la première partie. La deuxième partie, rendre une église attrayante et par quels moyens? Alors, la première partie, un Dieu visible et compréhensible de tous. En effet, comment espérer avoir aujourd'hui une telle qualité d'engagement des chrétiens, une telle harmonie, un tel témoignage et un tel rayonnement, et surtout une telle croissance numérique? C'est sans aucun doute une source d'inspiration pour les églises d'aujourd'hui, comme ça a dû être une source d'inspiration, bien sûr, pour toutes les églises au Moyen-Âge, au XIXe siècle ou à toute autre époque. Le texte des Actes décrit bien une église constituée d'hommes et de femmes, des chrétiens réels, comme nous tous, comme nous sommes. Des hommes et des femmes qui ont les mêmes problèmes de vie, de famille, de travail. La première chose qui pourrait nous interpeller est la simplicité. Il est même dit la simplicité de cœur. Il n'est pas décrit les conditions sociales de chacun, mais leur désir de prier, de partager les repas, de mettre en commun leurs biens. Il n'y a pas trace de discrimination sociale ou raciale, on dirait aujourd'hui. D'ailleurs, sans trop se tromper, il y avait sûrement des immigrés, ceux qui étaient venus pour la Pentecôte, de tous les pays du bassin méditerranéen, les prosélytes, comme on dit, ceux qui s'étaient convertis, des pauvres, des riches, des intellectuels. L'édification, l'enseignement, la prière et le service semblaient être leur occupation quotidienne. Le témoignage et la multiplication des disciples ne semblent pas être un programme préétabli, mis à part, comme une campagne d'évangélisation, bien planifiés, mais des éléments bien insérés dans la vie quotidienne, donc prêtes à subvenir aux besoins de chacun, avec une vie communautaire visible de l'extérieur, et donc exemplaire. Exemplaire qui donne envie, une vie chrétienne qui donne envie. Une vie chrétienne incarnée, disait un prédicateur. Des chrétiens qui ne sont pas des purs esprits, de purs théologiens, et bien sûr nous en avons besoin, mais faits de chair et en action pour son prochain. Tout comme Jésus qui, par son incarnation, a rendu Dieu visible et la bonne nouvelle compréhensible. Proche des gens et de la société, car pleinement insérés dans leur dimension humaine, avec une seule finalité, leur apporter le salut. Le salut en Christ. Nous voyons Jésus en particulier avec Lazare et la famille de Lazare, près des gens, plein de compassion. Voilà ce que devrait être l'Église. Il est surprenant de voir la maîtrise des premiers chrétiens pour la mise en place de la vie d'Église, d'une vie d'Église d'ailleurs fonctionnelle, alors qu'aujourd'hui, on écrit encore des livres sur la manière de gérer les églises locales. On chipote, on discute, mais même parfois on se dispute. Bien sûr, le contexte a changé au cours des siècles. Il y a forcément des adaptations à opérer. Comment aujourd'hui pourrions-nous vivre ensemble presque 24 heures sur 24, comme c'était le cas, ou on a l'impression que c'était le cas en tous les cas, dans un monde où l'aspect économique, le travail, sont tellement au centre de nos occupations et de nos préoccupations. D'ailleurs, faut-il s'en inquiéter? Non, quand on considère que notre travail, qui nous prend beaucoup de temps, peut aussi être le lieu où nous pourrons rendre Dieu visible et l'Évangile compréhensible, au moins par notre comportement. Alors, avons-nous perdu l'ADN initial qui était si motivant? Le texte suit immédiatement la Pentecôte. Et ce qui se passe dans cette église de Jérusalem est forcément en relation directe avec les événements de la Pentecôte. C'est la naissance de l'église qui vient de se produire avec ses manifestations extraordinaires et l'Esprit agit avec puissance dans cette jeune église qui, bien sûr, devra servir de modèle et d'exemple pour la suite. C'est l'acte fondateur de l'église de Christ que nous voyons ici. Ce que cette jeune église doit rechercher, c'est la vie dans la plénitude du Saint-Esprit. Acte 1:8 nous dit « Vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. » Il faut donc souligner également que cette apparente facilité et spontanéité est le résultat direct du temps de qualité que Jésus avait passé avec ses disciples, les apôtres, qui sont bel et bien présents dans cette jeune église. Donc, un enseignement parfait leur a été donné par Jésus lui-même, le Maître absolu. Lui qui leur avait dit « Je bâtirai mon église » n'a pas attendu la Pentecôte pour jeter les bases de la communauté chrétienne. C'est bien le Seigneur lui-même qui a généré par sa parole et son exemple la future église, celle de Jérusalem. Quand nous relisons ces versets, c'est surprenant de constater la sobriété des détails sur les activités concrètes que la communauté de Jérusalem pouvait avoir. Au verset 42, on peut relire, « Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Ça paraît simple, si simple, et bien résumé. On peut constater qu'il y a peu de choses sur les formes, sur la forme des rencontres et l'organisation qui sont si chères à nos sociétés occidentales, si précieuses à nos sociétés occidentales, comme les ordres de jours de réunion, les comptes rendus de réunion, etc., etc. Des programmes précis et souvent immuables, voire sacrés, comme le culte, le déroulement du culte. Mais il y avait là le désir d'interpeller, d'accueillir. Alors il ne faut pas croire que l'influence culturelle n'a pas eu de l'importance pour montrer le sens de l'Évangile. Ceux qui voudraient copier à la lettre l'Église de Jérusalem sans considérer l'aspect culturel se tromperaient et se trompent. Je pense en particulier à l'exemple de ces Amish aux États-Unis qui refusent le progrès technique, on ne sait pas pourquoi, ils ne sont pas forcément un témoignage. La volonté de rendre visible de ce Dieu d'amour, bien que fondamentalement, ce soit le Seigneur qui fait croître son Église, nous devons chercher à être proches des gens de notre époque. Paul n'a-t-il pas écrit en 1 Corinthiens 9, versets 20 et 21 « Avec les Juifs, j'étais comme Juif, afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi. Afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Avec ceux qui sont sans loi, comme sans loi, quoique je ne sois pas sans loi, sans la loi de Dieu, étant sous la loi de Christ, afin de gagner ceux qui sont sans loi. » Comme la forme et l'organisation ne sont pas décrits avec précision, pour rendre Dieu visible et compréhensible, nous pourrons donc en déduire qu'il est nécessaire que la forme, ou plutôt les différentes formes, sont largement culturelles, adaptées à notre culture et elles-mêmes, elles évoluent, se transforment. Les formes peuvent donc évoluer et s'améliorer avec les années et même les siècles. Et je pense en particulier aux moyens de communication modernes que nous avons, hein, les réseaux sociaux, Zoom, c'est le cas aujourd'hui. Il faut demeurer culturellement accessible, compréhensible et pertinent dans un temps et dans un lieu donné. Nous devons donc trouver, ou plutôt retrouver, cette forme adaptée à notre lieu et à notre milieu, pour proposer un Dieu visible et compréhensible pour par tous. Voilà un premier défi. Mais alors comment ? C'est notre deuxième chapitre, rendre une Église attrayante et par quels moyens ? La différence chrétienne dans ce monde. Alors, je vous propose de balayer ces éléments ou moyens décrits dans ce passage d'Acte 2 qui nous décrit ce que faisait cette Église. Alors, nous voyons d'abord un enseignement de qualité. Quand nous observons l'Église de Jérusalem dans son fonctionnement, les apôtres qui sont chargés de l'enseignement s'y appliquent en permanence, constamment. L'enseignement s'adresse à la fois aux nouveaux convertis, les nouveaux disciples, mais aussi aux incroyants qui étaient présents dans la communauté, puisque le texte nous dit qu'il s'en suivait de nombreuses conversions, donc il y avait forcément des incroyants qui assistaient. Donc, une église ouverte à tous. Retenons cela, une église ouverte à tous. Jésus avait dit à ses disciples, « Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes. » Et la parole se répandait. Acte 6, 7, la parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait, beaucoup, à Jérusalem, et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la loi. En Acte 12, 24, nous pouvons lire également, « Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. » En Acte 19, 20, c'est ainsi que la parole du Seigneur croissait en puissance et en force. Dans cette nouvelle Église, les apôtres ont réussi à former des disciples, à leur transmettre des connaissances, et en les équipant pour le service. Les disciples sont à leur tour rendus aptes à poursuivre la mission du Seigneur. Transmettre, transmettre, transmettre. Quel était le premier but ? Tel était le premier but de l'Église de Jérusalem. Donc, répondre aux questions qui se posent à tout homme sur la vie, la mort, Dieu, l'éternité, les comportements, les fautes, la culpabilité, les péchés, le pardon et le salut. Les hommes et les femmes de toutes les époques ont des questions existentielles auxquelles nous devons répondre. Blaise Pascal a bien dit, il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Il faut être convaincu que les hommes et les femmes de Montreuil, du quartier où nous sommes, ont les mêmes interrogations, le même vide dans leur cœur et que Dieu cherche à remplir. Le deuxième point, dans cette église de Jérusalem, une vie communautaire attrayante. Ils sont constamment ensemble, ils forment une communauté. D'ailleurs, nos églises s'appelaient à une époque communauté évangélique. Je ne sais pas si vous vous souvenez, à Nations, c'était communauté évangélique de Nations, à Montreuil, c'était communauté évangélique de Montreuil, etc., etc. Que les membres de l'église soient physiquement réunis ou dispersés, ils sont conscients de former une communauté. Peut-être un parallèle avec notre situation pendant le Covid. Sommes-nous conscients de former une communauté ? Oui, c'est vrai. On voit que depuis le début du Covid, nous nous réunissons, peut-être pas physiquement, mais en tous les cas de façon dématérialisée, et nous rendons compte que nous formons une communauté et que nous nous manquons les uns aux autres, que nous sommes pressés de nous revoir. On assiste à des opérations de soutien mutuel et de communion fraternelle dans cette Église. Ils se retrouvent dans le même lieu presque quotidiennement, nous est-il dit. Ils ne viennent pas de temps en temps à l'Église, au culte. Ils forment l'Église. Ils sont l'Église. Cette permanence de la vie chrétienne avec une forte conscience communautaire correspond bien à ce que l'apôtre Paul dit en Romains 12, verset 1. « Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Dans notre monde, où tant de problèmes familiaux, personnels, relationnels, où tant de situations de solitude sont omniprésents, l'ADN d'une église semblable à celle de Jérusalem, dans sa vie communautaire, est attrayante, doit être un exemple de vie. Il ne s'agit pas d'un clan, une église, un milieu fermé, où il faudrait montrer patte blanche. Car on dit qu'il y a beaucoup et tous les jours des hommes et des femmes qui s'y rajoutent. Donc, des hommes et des femmes, s'ils se rajoutent, c'est qu'ils viennent de l'extérieur. Le texte ne nous donne pas des informations sur l'organisation des groupes. Il décrit cependant une variété de réunions. Dans les maisons, donc dans le quotidien des familles, pour manger ensemble, pour prier et prendre la Sainte Cène ensemble, mais aussi dans le temple, en réunion plénière. Ces rencontres étaient largement accessibles aux incroyants, nous l'avons déjà dit. Toutes les rencontres, le texte ne le précise pas. En fait, ces chrétiens ne se cachaient pas. Ils ne fuyaient pas les incroyants. Ils étaient ouverts. Autre point important, la prière était omniprésente. Autre point essentiel, la prière. La prière à l'Église, à la communauté, de rester centrée sur Dieu. L'insistance sur l'assiduité nous indique que la prière est à la fois individuelle et dans les rassemblements, dans les maisons et dans l'Église, dans le temple. La dépendance de Dieu et de la foi en lui, centrée sur le Seigneur avec l'expression des louanges et des supplications. C'est ainsi que les croyants voient et entendent des disciples, les incroyants, pardon, voient et entendent des disciples prier et louer Dieu. Ils sont touchés par l'expression des prières et leurs exaucements, et ils se trouvent ainsi face à la réalité de son existence. Le verset 47 nous dit « Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. » Louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Ils trouvaient grâce auprès du peuple parce que le peuple les voyait. Ils voyaient les miracles, ils les voyaient prier, ils les voyaient être ensemble, s'entraider. Quel exemple! L'entraide sociale est aussi efficace dans l'Église de Jérusalem. Il y avait une méthode efficace de gestion des ressources et du patrimoine, avec la mise en commun des ressources, une attitude spirituelle, rare et vraiment spectaculaire. Une attention prioritaire aux besoins des membres, quels qu'ils soient. La notion de redistribution des biens acquis grâce à Dieu par chacun. Tout ce que nous possédons nous est prêté par Dieu. Cette notion de partage a même créé une crise avec Ananias et Saphira qui ont voulu faire hypocritement comme les autres, mais sans y parvenir. Car le partage des biens devait être pleinement consenti de façon individuelle et non imposée et dans un esprit de grande liberté. Et surtout, surtout, sans hypocrisie et sans faux semblant. Un acte vrai et de compassion venu du cœur. Il y avait aussi dans l'Église de Jérusalem la manifestation de la puissance de Dieu. Cette manifestation de la puissance de Dieu qui confirme à chacun la vérité des enseignements des apôtres. Le Seigneur intervient grâce à la puissance de l'Esprit pour transformer des vies et accomplir des miracles. Les hommes et les femmes doivent accueillir son intervention avec foi. Dans l'Église de Jérusalem, il y a manifestement cet élément de foi qui permet au Saint-Esprit, par des miracles et de la puissance, d'attester la vérité de l'enseignement des apôtres. L'Évangile n'est pas une théorie sociale ou une morale, mais une puissance de Dieu par laquelle il sauve tous ceux qui croient et aussi les non-juifs, nous dit Romains 1,16. Dans cette église de Jérusalem, on y voit aussi la joie. Il régnait un excellent esprit à tous les niveaux. Un aspect très remarquable qui tranche avec le monde pharisien de l'époque. Et la joie se dégage. La joie lors des repas pris avec simplicité de cœur, nous est-il dit, je le répète. La joie de voir Dieu agir, la joie de pouvoir louer Dieu en toutes circonstances de la vie. C'est cela aussi qui doit parler à nos contemporains embourbés dans des situations de vie inexplicables ou sans but. Une joie profonde ancrée dans l'espérance en Christ. Quand nous écoutons les informations, nous nous rendons bien compte que cette situation de désespoir dans laquelle se trouvent tous ceux qui n'ont pas trouvé cette paix et cette joie dans leur sauveur. J'écoutais encore cette semaine un journaliste qui expliquait que le Covid avait tué la joie de vivre parce que nous n'avions plus accès au plaisir de la vie. J'espère que nous, chrétiens, nous n'avons pas perdu la joie que nous donne la relation avec Dieu. Le monde a besoin de la joie qui donne la relation, avec le Créateur, qui donne le pardon des fautes, la liberté acquise à la croix. Soyons prêts à expliquer pourquoi nous n'avons pas perdu notre joie, même après un incendie ou pendant le Covid ou après le Covid. Pierre dira, si on vous demande de justifier votre espérance, soyez toujours prêts à la défendre avec humilité et respect. Pierre 1 Pierre 3,15. Alors dans cette église de Jérusalem, il y avait aussi un style de vie qui était observable par les habitants, ceux qui les côtoyaient. Leur style de vie, largement observable par les habitants de Jérusalem, était attrayante. Verset 47. Ils louaient Dieu et se faisaient aimer de tout le peuple. Donc s'ils se faisaient aimer de tous les peuples, c'est simplement que le peuple se rendait compte, ceux de l'extérieur se rendaient compte que leur vie était intéressante, que leur vie était attrayante. Nous sommes la bonne semence nourrie par la parole de Dieu et remplie du Saint-Esprit. Nous sommes cette semence que Dieu répand dans le monde, placée au bon endroit par le grand missionnaire, Jésus. On reconnaît dans l'Église de Jérusalem cette bonne compréhension et cette obéissance à ce commandement de Dieu. Le Seigneur place chaque disciple dans son champ de mission, dans ce monde et selon son plan. C'est valable pour chaque chrétien, mais aussi pour l'Église en tant que témoignage collectif. La bonne semence en parole et en acte que Dieu fait fructifier par l'action de la parole et par son Saint-Esprit. 1 Pierre 2,12 nous dit « Ayez une bonne conduite au milieu des païens, ainsi dans les domaines mêmes où ils vous calomnient en vous accusant de faire le mal, ils verront vos bonnes actions et loueront Dieu le jour où il interviendra dans leur vie. » Certes, nous avons un style de vie différent, bien différent des gens du monde, comme on dit. Mais voilà, on doit être un exemple. Il y avait aussi dans cette église de Jérusalem l'efficacité dans l'évangélisation. Dans le texte, il n'y a pas de doute possible, c'est bien le Seigneur qui rajoute les nouveaux convertis chaque jour, ce qui nous laisse penser que nous ne devons pas à tout prix rechercher la croissance numérique, mais plutôt ne pas faire obstacle et ne pas bloquer par nos hyper-stratégies d'évangélisation, ne pas bloquer le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit veut nous montrer qu'il agit malgré notre ingéniosité dans tous les domaines de l'évangélisation. Devons-nous d'ailleurs attendre l'effort annuel ou biannuel ou exceptionnel d'évangélisation pour nous consacrer à la croissance de notre Église ? Ou comprenons-nous que c'est l'Église elle-même, dans sa vie quotidienne, qui rajoutera chaque jour des personnes en recherche, comme à Jérusalem. Les chrétiens ne sont que des personnes qui, prises individuellement comme disciples de Christ, mais ils font partie de l'Église locale, qui représente le Christ, et rend l'Évangile visible, compréhensible et accessible à tous. Dans un monde divisé, individualisé, donc égoïste, à la recherche du plaisir individuel, l'unité des membres de l'Église, de toute origine et de toute condition sociale, offre un exemple puissant. Il faut en être conscient. L'Église n'est pas obligée d'organiser de nombreuses actions spectaculaires et ciblées, mais surtout montrer au monde un visage différent et accueillant, en laissant les personnes libres en recherche, cheminer à leur rythme vers Christ. L'assistance du Saint-Esprit fera le reste. Ne pas rester sans rien faire, bien sûr, mais en pratiquant ce que l'Église de Jérusalem nous a appris et nous a résumé dans les versets 42 à 46. Conclusion. L'Église de Jérusalem, qui doit en effet être quand même notre modèle, notre exemple dans l'esprit, et surtout avec l'esprit, nous dit avec force ce qui est le plus important est l'être et non le faire. L'être et non le faire. Certes, nous l'avons déjà entendu des dizaines de fois, et je ne fais que répéter ce que j'ai moi-même entendu, lu et relu, mais je profite de la réflexion que l'expérience, j'allais dire malheureuse, oui et non, de cet incendie, m'a suscité pour que nous puissions nous remettre en question sur notre vie d'Église, notre vivre l'Église, question qui nous a été posée lors de nos AG, respectives. Comment avons-nous vécu l'Église? Donc une vie chrétienne individuelle et communautaire empreinte des différents aspects de cet ADN de l'Église de Jérusalem. Une vie spirituelle attrayante pour nos contemporains, pour rendre Dieu visible. Un témoignage empreint de simplicité auprès de nos contemporains et de nos voisins, pour rendre Dieu compréhensible. Une vie sociale empreinte de compassion. Voilà. Inviter, discuter, avoir de la compassion, vivons l'Église. Et les hommes et les femmes de notre quartier, de notre ville, seront attirés par l'Évangile du salut. Car c'est notre but ultime, qu'ils soient tous sauvés. Développons donc cette persévérance de Bethel à Jéricho pour traverser le Jourdain pour notre Église. Message d'Abdoulaye il y a une semaine, que j'ai bien aimé. Profitons de cette nouvelle étape de notre Église pour réfléchir dans ce sens, en tous les cas. Alors, nous allons bientôt retrouver notre cher bâtiment. Je propose que nous invitions nos voisins pour une espèce d'inauguration, sous une forme bien sûr à définir, avec une présentation de nos activités et de notre rôle de l'Église dans le quartier. Alors, c'est ouvert, il n'y a rien de précis, on doit y réfléchir, mais je vous mets ça sur le cœur. Je pense que ce serait une bonne idée et que ce serait une bonne occasion de vivre l'Église dans notre quartier. Amen. Soyez bénis.
Amen. Merci Daniel pour ce partage. Prenons un